18h, nous sommes le lundi 12 décembre, vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web, et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, et c'est reparti pour 30 minutes avec un jeune talent d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, alors que Noël approche, on a rendez-vous avec des images et le soleil levant. Mon invité est illustrateur. Bonsoir Varam Muratian.
Bonsoir.
Alors, je ne sais pas si vous êtes illustrateur ou artiste graphique, j'ai trouvé les deux pour vous, j'ai même vu directeur artistique. Alors dites-nous ce que vous êtes.
Je suis tout ça
à la fois.
Alors, pour ce livre, on va dire un auteur graphique. On va en général plutôt directeur artistique.
D'accord. Vous êtes connu, alors vous êtes donc directeur artistique, vous êtes connu pour un premier livre Paris-New York paru il y a quelques années, et cette fois-ci vous nous proposez un voyage au Japon. Alors, on découvre en lisant votre ouvrage graphique, mais où il y a un peu de texte quand même, que ce n'est pas la première fois que vous allez au Japon. Qu'est-ce qui a changé entre cette dernière fois où vous y êtes allé et les fois précédentes?
Ben, en fait, mon dernier voyage, c'était juste avant qu'on soit tous bloqués. Donc, c'était en 2019 et effectivement, ça a été bloqué même pendant 2 ans et demi. Ils viennent de rouvrir à peine les frontières et je pense que l'évolution en 7 ans, c'était entre le premier voyage en 2013 et 2019, pour moi, ça a été l'invasion touristique. Les gens veulent voir absolument les sakuras, c'est-à-dire les cerisiers en fleurs. Ils veulent venir voir absolument tout ce que le Japon propose, vu la folie du manga, vu tout ce que la culture promet. Et je pense qu'en 7 ans, j'ai vu énormément de choses arriver. Et là, ça me manque. Je pense que j'aimerais retourner. Le livre, en fait, je l'ai fait pour ça, pour... Si jamais je ne peux pas y aller, et si je ne peux plus y retourner, et si je dois y retourner un jour, je sais que je garde ça avec moi. C'est mon petit condensé.
Vous-même, vous le feuilletez pour voyager? Vous feuilletez votre propre livre?
Non, pour l'instant, je pense que c'est plutôt un cadeau que je fais aux autres, avant tout, c'est-à-dire ceux qui ont toujours hésité. D'abord, je l'ai fait pour eux, parce que quand on a été bloqué avec le Covid, il y a une phrase qui me revenait, c'est tous ceux qui m'ont dit quand j'y allais, mais je rêve d'y aller au Japon, je ne sais pas quand. Je me réserve ça pour plus tard. Et en fait, je me suis dit, là on est bloqué, on ne peut plus y aller. Ça se trouve, ils vont fermer les frontières pendant 10 ans. Ils ont déjà fermé pendant 300 ans leurs frontières. Donc, je me suis dit, si ça ferme, qu'est-ce que je garde de ce pays? Qu'est-ce que je transmets à ceux qui n'ont jamais pu y mettre les pieds pour leur montrer que ce n'est pas si compliqué d'y aller? Beaucoup se font une montagne avec ce voyage, alors qu'en fait, c'est assez simple. Alors, c'est vrai que c'est cher. Mais après, il y a énormément de choses qui ne sont pas beaucoup moins chères qu'à Paris ou qu'en France. Et il y a énormément de facettes et énormément de façons de voyager. Il y a plusieurs Japons. Et c'est ce que je voulais absolument montrer dans ce bouquin. C'est pas que Tokyo, c'est pas que Kyoto, c'est pas que des geishas et des traditionnels versus du super moderne. Il y a énormément de choses entre deux. La campagne notamment, les villes un peu intermédiaires, les îles, le côté Hawaï, d'Okinawa. Tout ça, c'est dans le livre. Et c'est pas que montrer que Tokyo ou que Kyoto comme on pourrait s'attendre au départ, quoi.
Un pays comme le Japon, on rêve beaucoup d'y aller. Alors vous, la première fois, c'était en 2013. Comment vous le fantasmiez? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller?
Alors c'est vrai qu'au départ, le livre, je me base sur toutes mes expériences d'enfant en tant que consommateur de contenu japonais, les dessins animés, les Tamagotchi, les jeux vidéo, tout ce que j'ai pu avoir comme produit culturel et industriel quand j'étais enfant. Je n'avais pas forcément envie d'y aller à cette époque-là. Ce n'était pas le pays que je voulais visiter. Je pensais que c'était un pays de contenu. Il a fallu que j'attende plutôt les premiers Miyazaki et surtout les films des années 90-2000, Kitano notamment, avec une poésie que j'attendais pas du tout. Et aussi tous les films autour des yokai. Les yokai, c'est tous les fantômes, toutes les croyances, tout ce que je ne comprenais pas dans les films comme The Ring ou Dark Water. Et même dans les films de Miyazaki comme Chihiro, il y a des choses que je ne comprenais pas et ça commençait à me titiller à ce moment-là. Puis bien sûr, il y a Lost in Translation pour la version occidentalisée de la vision sur le Japon de Sofia Coppola. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose dans ce pays qui a l'air d'être déjà dans la mélancolie, dans la nostalgie. Et c'est ce que je dis à mon mec, c'est que j'avais déjà une nostalgie sur un pays que j'avais jamais visité. Et j'avais besoin de m'y rendre à un moment donné. J'y suis allé en 2013 à ce moment-là pour la sortie de Paris versus New York en japonais.
Quand vous y êtes allé la première fois, justement, vous l'avez éprouvé, l'effet Lost in Translation?
Oui, alors j'ai eu la chance d'être accueilli avec mon éditeur de Paris versus New York,
Oui.
donc j'ai pu être tout de suite mis dans le bain, mais après, il y a des moments où on se sent réellement face à soi et face à des choses incompréhensibles, notamment tout ce qui est écrit au mur et sur les panneaux. Et quelque part, ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas forcément tout savoir lire, tout savoir, enfin, tout comprendre et de regarder différemment le pays. Il y a de l'anglais, évidemment, maintenant. Ça a énormément évolué, ça, sur les 10-15 dernières années. Mais en fait, il y a quand même quelque chose d'assez reposant de ne pas tout saisir. Et Lost in Translation, il est finalement assez bénéfique pour découvrir le pays d'une autre façon. Et quand on ne parle pas vraiment le japonais, moi, c'est pas mon, je ne parle pas japonais, et ben, j'ai d'autres manières de m'exprimer, et ça passe souvent autour d'un plat qu'on partage, par exemple, dans un izakaya, un petit pub japonais, on va dire.
Oui, parce que ce que vous expliquez, enfin ce que vous racontez, vous l'expliquez pas, vous le racontez plutôt, c'est que c'est très difficile de partager un moment avec les des Japonais.
Ça dépend, en fait, il y a des moments qu'on peut essayer de provoquer. C'est-à-dire, par exemple, une chose que je raconte dans le livre, c'est par exemple d'être invité chez quelqu'un. Et c'est rare généralement d'être invité à dîner ou même pour visiter la maison de quelqu'un. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop là-bas et on se retrouve plutôt dans des restaurants. Il y en a 160 000 à Tokyo apparemment, c'est le record mondial. Et c'est parfois juste des petits restaurants de 4 places. Mais c'est plutôt au restaurant ou dans des bars qu'on se retrouve. Et un jour, j'étais invité dans une maison et je ne parlais pas du tout la langue. C'était via mon éditrice qui voulait me montrer une maison de ses amis. Et cette maison, c'est une maison Muji, une maison préfabriquée. Et une maison qu'on peut commander sur le site Muji Japon. Alors, je fais une pub pour Muji, désolé. Mais en fait, c'est vrai que c'était étonnant de se retrouver déjà chez des gens. Chez des Japonais, et ensuite dans cette maison qui était d'ailleurs très chouette, designée par Kengo Kuma, l'architecte très connu japonais, et ensuite de partager une façon de cuisiner, une façon de dîner avec des purs japonais, et l'échange était incroyable, parce qu'on n'a pas, on n'a pas toujours l'occasion. Moi, je pense qu'en retour, j'aimerais recevoir des Japonais, même ceux qui ne parlent pas français, chez moi quand. Et je l'ai déjà fait d'ailleurs, et c'est une autre façon de discuter.
Très bien, je vous écoutais, je suis un peu perdu, pardon. Vous parliez à l'instant des mangas, de la culture des jeux vidéo, des films. Vous, votre manière de dessiner est complètement à l'opposé de ça. Est-ce que c'est malgré tout, même si moi je ne le vois pas, est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous?
Alors, effectivement, le manga, c'est pas du tout mon inspiration première. Justement, je vais m'éloigner des choses qu'on pourrait imaginer pour un bouquin sur le Japon. J'ai quelques petites références et des clins d'œil que j'ai fait dans le livre, notamment de Naruto, et puis de manière générale, de tous les héros de manga qui se régalent de ramen, donc ces grands bols de soupe garnie. Donc ça, c'est vrai que je fais quelques clins d'œil avec pas mal d'aspects de la culture japonaise, mais je ne suis pas focalisé sur One Piece et sur tout ce qu'il y a aujourd'hui ou ce que moi j'avais à l'époque, c'est-à-dire Dragon Ball Z, etc. Moi, je suis un quadra maintenant et je suis un enfant des années 80. J'aurais pu énormément citer. J'avais envie de développer beaucoup plus que ça et je pense que personne n'a besoin de moi pour rajouter une couche de lecture sur les mangas. Je pense qu'il y a autre chose à montrer aussi sur la culture japonaise.
Mais
Mais
esthétiquement, c'est
je suis assez fan de certains mangas.
pardon, mais esthétiquement, c'est pas vraiment votre. Ça fait partie de vos sources d'inspiration, ça fait partie des choses qui vous ont nourri malgré tout, même si on n'en voit pas au premier regard l'impact quand on regarde vos dessins.
Moi, dans le dessin, non, mais dans la nostalgie, et notamment dans. Moi j'appelle ça aussi un manga Quartier lointain, par exemple.
Oui.
Où là je parle d'un moment donné d'Akira, je pense que c'est plus le souvenir des expériences japonaises. C'est-à-dire moi quand j'ai eu un souvenir d'Akira plutôt enfant, adolescent avec la musique, c'est ça que je raconte. Je raconte pas forcément à travers peut-être même de la recopie ou de l'inspiration visuelle, mais plutôt sur qu'est-ce que ça a amené visuellement et de manière sonore. Sur moi, et pareil pour les films d'Ozu dans un autre registre. Et c'est plutôt ça qui m'intéressait, c'est quelle est la trace, quelle est l'écume d'un voyage, quelle est l'écume de l'imaginaire quand on est en train de penser au Japon, à quelle image je pense quand je pense au Japon. Et c'était un peu ce fil rouge que j'ai essayé de suivre tout le long du livre avec mon récit en tant qu'enfant et puis en tant que consommateur aussi de culture japonaise et aussi de se rendre compte qu'avec la carte qui est cachée derrière la couverture, qu'on est peut-être même irrigué par, comme on pourrait imaginer qu'on est quand même très américanisé. En fait, on est sans le savoir ou même sans s'en rendre compte très, très japonais au final dans notre manière de vie ces dernières années. Et il y a énormément de choses qui sont venues de la culture japonaise et on n'est pas forcément toujours conscient de ça.
L'auteur de Quartier Lointain, qui d'ailleurs a fait aussi un très beau livre qui s'appelle Journal du gourmet solitaire, je le cite parce que vous insistez beaucoup sur la nourriture et c'est vrai que rien qu'à lire ce livre, c'est peut-être le livre le plus dépaysant que je connaisse quand on le lit, le Journal du gourmet solitaire.
Il est génial ce livre. Et puis même la série qui était d'abord un manga qui est sur une chaîne à péage, qui est Tokyo Midnight ou Midnight Stories, avec tous ces... Ça se passe dans un izakaya et on se retrouve avec le chef de l'izakaya, donc de ce pub japonais, qui retrouve ses clients tous les jours, tous les soirs plutôt, à minuit, et qui sert à chaque fois des plats différents. Et c'est un leitmotiv pour parler de la société japonaise. Et c'est exactement aussi ce genre de biais qui m'intéressait.
Est-ce que vous étiez un otaku avant de partir en voyage au Japon?
Je ne sais pas si je suis un otaku, mais beaucoup pensent que oui. Enfin, le otaku, c'est le nerd. Ça dépend comment on peut le décrire, le otaku. Moi, je m'enferme pas dans ma chambre forcément pour un sujet, mais en l'occurrence, là, je me suis quand même enfermé pendant 2 ans, assez longtemps pour écrire et dessiner et aussi beaucoup reprendre mes récits de mes voyages au Japon. Est-ce que je suis un otaku? Peut-être sur les livres, hein, en général. Ouais.
Je vais vous en faire découvrir un. Il s'appelle Sébastien. Il avait 25 ans en janvier
99. Ah oui. Un otaku, c'est le terme japonais pour désigner le fan, le grand fan, voire un maniaque, hein, celui qui ne se consacre. En fait, otaku, c'est surtout pour désigner celui qui ne se consacre qu'à sa passion.
Quand Sébastien Jarry, à 25 ans, regarde la télé, c'est pour s'évader avec une de ses 200 cassettes d'animés japonais. Entendez par là des dessins animés.
Ah, y a un ami. Oh, le bouclier ne tient pas du tout. Oh, petit chien. Maintenant. Oui, ça y est. C'était moins une. Quel genre d'animé je regarde le plus? Bon, en général, c'est en général cette série-là, parce qu'elle est quand même très réaliste. Et puis, bah, les animés qui m'ont bercé pendant mon enfance. J'aime bien aussi les mangas romantiques, parce que je suis un cœur sensible quand même. Les Japonais font des dessins animés pour tout style, pour toute catégorie d'âge. Il y a des dessins animés pour enfants, il y a des dessins animés pour adolescents, il y a des dessins animés pour adultes. Il y a des dessins animés pour jeunes mamans. Quand j'étais enfant, j'ai fait un rêve qui se répétait de temps à autre. Aujourd'hui, je ne le fais plus ce rêve, mais quand j'étais petit, ça revenait très souvent. Je rêvais que j'étais comme une sorte de petit sauvage devant une grande montagne au cône blanc. Et c'était le mont Fuji. Et j'en ai déduit que j'avais été un enfant japonais dans une vie antérieure.
La relève sur Radio Campus Paris.
Alors, on est toujours avec Varam Muratian. Vous êtes l'auteur de Va au Japon aux éditions Les Arènes et Comon. Alors, vous êtes reconnu dans ce portrait? Vous chantez aussi en japonais? Vous faites du karaoké?
J'ai beaucoup aimé. Je vous connais, archive, elle est incroyable.
À 99, c'est très marrant comment on parlait du Japon à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, donc il a encore des cassettes.
Non, il a une sacrée dose de. Et puis, bon, mon savoir sur. Ça n'a pas changé. Hein. Il y a énormément de personnes qui s'y sont mis depuis, mais c'est vrai que là, on a un bon spécimen et c'est assez drôle de l'entendre aujourd'hui. Ouais. Ouais, complètement. Est-ce que je me suis reconnu? Oui, il y a des passions qui ne me lâchent pas et qui ne m'ont jamais lâché et qui m'ont amené à être un peu, ouais, un peu obsédé et donc de ne pas lâcher, ouais, tout simplement. C'est pas qu'un toc.
Si on vient à votre ouvrage, il fonctionne par double page qui toujours se répondent graphiquement. Comment s'est imposé à vous l'idée de retrouver la méthode qui était déjà celle que vous utilisiez pour Paris-New York? C'est en faisant des essais, vous avez vu que ça marchait bien et vous avez continué comme ça?
Alors effectivement, sur Paris-New York, c'était des doubles pages qui étaient presque indépendantes l'une de l'autre. C'était à chaque fois qu'il y avait une double, il y avait un thème. Là, j'avais besoin de créer quelque chose qui soit un peu plus lié entre chaque double réellement. C'est-à-dire que si on devait faire un accordéon de tout le livre, tout est censé se suivre réellement. Donc il y a un vrai récit. Et donc chaque page, par exemple la page de droite quand on a la page de gauche, les deux sont le même mot, ou en tout cas la même idée d'un mot et une autre facette d'un mot. Et donc c'est pour ça qu'on a à chaque fois l'impression que tout peut être... comme un jeu de domino et donc Shiritori, c'est un autre jeu japonais, on a l'impression, en fait, si on lit le bouquin, de pouvoir avoir un chemin comme une promenade à travers le Japon. C'est vraiment une traversée, j'ai essayé de lier toutes ces pages pour créer vraiment une traversée et pas avoir juste des doubles pages comme Paris versus New York.
Vous l'avez vraiment écrit comme ça, comme une histoire, ça s'est imposé à vous?
Oui, au début, il s'appelait Mon Japon est, trois petits points, EST, c'est-à-dire qu'on avait à chaque fois un mot. Puis en fait, je commençais à expliquer donc ces images à ceux qui avaient la primeur de le lire au départ, et tout le monde disait, quand j'expliquais les images, je disais, mais je voudrais que ce que tu m'expliques là, tu m'écrives et que je le lise, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à écrire ce que vous avez sous chaque image. Je ne voulais pas paraphraser les images, c'est surtout pas ça qui était intéressant, mais de décaler un peu le propos. Donc il y a, on va dire, trois clés de lecture dans trois couches en fait de lecture dans le livre. Il y a il y a les pages d'images, de couleurs, et après donc il y a ce mot en rapport avec l'image, et après il y a ce petit récit en dessous qui permet d'avoir une autre lecture de ce récit global sur ma relation au Japon depuis que je suis tout petit.
Est-ce que le livre est sorti au Japon simultanément?
Non, pas encore. Non, il n'est pas prévu encore. Les Japonais sont en cours voilà, ils sont en train de le voir et quelques amis japonais l'ont lu avec Google Trad pour l'instant. Et ça marche assez bien apparemment, mais bon, je crois qu'ils n'ont pas toutes les subtilités, mais ils sont quand même assez contents d'avoir pu l'avoir comme ça. Mais pour l'instant, on attend un peu encore pour la version japonaise.
Pour vous, ça serait un accomplissement, enfin l'accomplissement ultime que le livre apparaisse simultanément au Japon, enfin apparaisse à présent au Japon?
Oui, bien sûr, oui, bien sûr, ce serait bien. Et même ailleurs, ce serait chouette de pouvoir parler de cette culture à travers ce style-là. Après, je ne sais pas comment ça va se passer, on verra sur 2023. Ouais.
Pour le moment, l'édition traverse des moments un peu peut-être difficiles. On peut dire ça?
Ça, franchement, ça dépend de quoi on parle, de quel type de livre on parle. Le vrai problème du livre aujourd'hui, c'est la disponibilité du papier déjà, donc ça c'est l'anticipation en fait qui pose problème, c'est savoir en tout cas en parlant aux éditeurs, c'est vraiment sur quoi on peut parier pour proposer le livre dans les temps quand le livre fonctionne, et ça c'est le gros problème du moment, c'est trouver les bons papiers partout quoi.
Je sais,
il y a beaucoup de papiers différents. Ouais.
J'imagine que vous aimez les voyages, est-ce que vous aimeriez voyager dans le temps?
J'adorerais, ouais.
Alors je vous emmène en 80. Ah, c'est l'enchaînement de l'année. Je vous envoie en 1986, une époque où on adorait les boîtes à rythme et les synthétiseurs. Vous allez voir ça. Taxi Girl aussi belle qu'une balle. Je crois qu'on avait compris.
La relève sur Radio Campus Paris.
On est toujours en ligne avec Vara Muratian, pardon. Vous êtes l'auteur de Va au Japon aux éditions Les Arènes et Comment. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Allô ?
Toujours là.
Ah oui, vous êtes toujours là. On commençait à avoir peur. On s'est dit que ce voyage dans les années 80, vous avez été fatal. Non, ça allait.
Mais que la joie fonctionne toujours, c'est bon.
On sait finalement peu de choses sur vous, alors que vous êtes l'auteur d'un best-seller, je crois qu'on peut dire mondial, qui est ce Paris-New York, qui vous a rendu célèbre dans le monde entier. Qu'est-ce que vous aviez fait avant ce livre, Paris-New York ?
Avant ou après ?
Avant déjà. Alors avant, vous aviez fait une école d'art Pardon.
Pardon, excusez-moi, non.
Non, vous aviez fait une école d'art, de graphisme, vous travaillez dans la presse,
je crois ? Oui, en fait, avant, j'étais à Penningen, donc les AX, c'est l'école supérieure d'art graphique, et à Paris. Donc j'étais là-bas jusqu'en 2002. Et ensuite, j'ai été prof là-bas aussi, d'ailleurs. J'ai été prof de design graphique, justement. Entre-temps, j'avais évidemment pas mal de projets, de clients. Et un jour, je suis parti à New York pour justement avoir cette possibilité de travailler un peu là-bas. Et en fait, j'avais pas prévu le coup. Et ben, j'ai fait un blog quand j'étais là-bas, justement, parce que Paris me manquait quand j'étais à New York. Et j'ai mis les deux villes au même niveau. Et j'ai commencé à comparer ces villes graphiquement. Et c'est devenu ce que c'est devenu avec un livre à la clé. C'était un peu la folie à cette époque-là. Il n'y avait pas Instagram. Il y avait beaucoup de blogs. Et il y avait Facebook et Twitter, hein, déjà. Mais c'est vrai que c'était très étonnant, la façon dont la viralité vous touche à un moment donné, et on ne s'y attend pas du tout. Et alors, est-ce qu'on est connu pour un projet, pour des images, pour ce qu'on est ? Moi, ça me va très bien d'être connu pour des images et pas pour ce que je suis, donc je suis assez discret sur ma vie. Mais au final, ça c'est parce que je dessine que je m'exprime le mieux. Donc, est-ce que je suis illustrateur ? C'est la grande question. Je ne me considère pas comme illustrateur, mais plutôt comme quelqu'un qui regarde un peu ce qui l'entoure et le traduit en mots et en images. Donc c'est peut-être illustrateur pour certains aspects, mais pas que.
C'est facile de se remettre d'un tel succès ?
Oui, bien sûr. Ben, au final, ça m'a ouvert beaucoup de portes et beaucoup de rencontres sont nées, et notamment des voyages au Japon qui sont nés aussi de ce...
Oui, parce que la première fois que vous allez au Japon, vous le racontez, c'est pour présenter ce livre, et vous le disiez tout à l'heure, je le rappelle.
Oui, voilà, il y a eu ce premier voyage. En fait, moi, c'est vrai que ce premier voyage a été un peu une surprise parce que je n'avais pas prévu d'aller jusque là-bas parce que le livre est sorti en beaucoup de pays, mais après, je n'avais pas prévu de faire la tournée mondiale pour ça. Mais j'ai dit, bon, c'est l'occasion. Justement, comme ces personnes qui me disaient, je n'ai jamais trouvé l'occasion, moi, je repoussais ce voyage aussi. Et j'ai dit, bon, bah, c'est maintenant et autant y aller. On m'a invité, j'ai dit, bien sûr, on y va. Et puis là, c'était le coup de foudre. Et le coup de foudre a fait que j'ai complètement lâché les côtes américaines, où je continue à me rendre très souvent pour aller vers les côtes nippones. Et je ne m'attendais pas du tout à ce changement, en fait, et à ouvrir sur l'Asie. Parce que depuis, j'ai découvert pas mal de pays d'Asie, notamment Taïwan. On en parle beaucoup en ce moment. Taïwan, c'est un mélange de Chine et de Japon. C'est complètement fou comme pays. Des gens incroyables aussi, un pays que peu de gens connaissent finalement, et avec énormément de choses à voir et des musées incroyables, enfin tout est incroyable là-bas. Donc voilà, c'est des moments où on ne s'attend pas non plus à ça, et c'est un livre qui amène toutes ces rencontres. Ouais. Donc je m'en remets très bien, ouais. c'est pas très compliqué, mais après c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut raconter de plus et sur quel sujet, et ça c'est toujours le point de tous les artistes, hein, c'est comment on se renouvelle et qu'est-ce qu'on peut amener de plus pour que ce soit pertinent pour l'époque.
Oui, je vous avais entendu dire une fois, je crois que c'était une présentation du média en live, et vous expliquiez qu'on vous avait beaucoup proposé après de faire des Paris-Berlin, des Neuilly-Clichy, enfin, vous avez tout proposé. Vous auriez pu continuer à tirer la ligne.
Bah, la limite, elle est là, la limite dans un succès, notamment quand les clients tapent à la porte pour avoir, par exemple, aussi un versus, parce que c'était Paris versus New York, c'est sur ce versus que ça fonctionnait aussi. C'est que les gens se disent, ah, mais c'est parfait, ce sera un match entre eux, par exemple, une boîte qui s'ouvre justement, je ne sais pas, à Rio, et que Lisbonne et la base centrale, ils veulent un Lisbonne versus Rio. Bon, ben, moi je connais ni l'un ni l'autre très bien, je connais Lisbonne un peu, mais l'importance dans un projet, c'est d'être authentique et de pas se répéter justement ce que je disais. C'est qu'il faut avoir une vision globale pour arriver au détail. Et j'avais, pour moi, a priori, assez de connaissances sur les voyages que j'ai pu faire grâce à ma famille et grâce à ce que je connais à New York. J'ai pu aller souvent là-bas pour connaître cette ville et m'en détacher finalement assez en tant qu'outsider pour pouvoir montrer des facettes de cette ville et aussi celle de Paris que je connais très très bien aussi, j'y vis, et de pouvoir être le plus juste possible. C'était ça l'idée. Et un livre permet ça. Un projet qui va durer 2 semaines pour un client, ce ne sera pas la même force.
Oui, et comme ça, on a échappé à un Versailles versus Montreuil. Merci. Merci à vous. Là, vous venez de faire Varam Muratian va au Japon. Est-ce que vous allez faire une série comme Tintin à chaque voyage maintenant?
Où est-ce que j'irai la prochaine fois? C'est la grande question. Peut-être en Bretagne.
Bah peut-être, c'est joli la Bretagne. Et puis, il y a un très joli livre d'un artiste chinois qui découvre la Bretagne, je crois, au début du XXe siècle, qui est une splendeur. Enfin, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on va bientôt pouvoir voir vos illustrations, vos dessins dans une galerie?
Bah écoutez, elles sont en ce moment exposées dans... c'est chez Muji, justement, comme une boucle. C'est chez Muji en ce moment. Pour les grands formats, vous les voyez là-bas. Et surtout, samedi, à partir de samedi...
Dis-moi, on a de la chance de vous avoir aujourd'hui. Alors, pardon, on peut vous voir samedi?
Complètement, ça tombe très bien.
Pardon.
La première sérigraphie du livre sort samedi au musée du Quai Branly, parce qu'il y a une très belle expo sur le kimono, qui vient du V&A, du Victoria and Albert Museum de Londres, qui vient de s'installer au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Et on m'a invité à faire une sérigraphie qui sera vendue exclusivement là-bas. Donc, c'est la couverture en très simplifié de Va au Japon, c'est le Mont Fuji, que chaque otaku connaît très bien maintenant. Ouais.
Mmh. Alors, votre livre, pour finir, je voulais quand même dire que c'est une très belle idée de cadeau pour tous ceux qui veulent voyager, qui n'ont pas le temps et pas les moyens, et surtout qu'on ne peut avoir que de l'amitié pour un homme qui a écrit « Celui qui a inventé le mochi, gloire à lui ». Quel est votre parfum préféré, s'il vous plaît?
Moi, je reste très fidèle au matcha. Donc, je pense que c'est mon... Je pense que j'aime le matcha, mais après, j'en ai tellement d'autres. Et puis, il y en a certains, parfois, au marron. Voilà, parce que je suis un gros fan de marron aussi. Là-bas, ils appellent ça Mont Blanc, comme chez nous. Tout ce qui est au marron, ça leur évoque le haricot rouge qui déguste partout. Il y a à peu près la même texture. Donc, je pense que mon cœur balance. Voilà.
Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Hein. Vous pourrez en prendre deux. L'avantage du mushi, c'est que c'est pas très gros.
Voilà,
vous pourrez faire un versus ou Kit Kat versus mushi aussi, vous pouvez essayer. Merci beaucoup Varam Muratian. Je vais pas y arriver. Merci beaucoup Varam Muratian. C'est la fin. Je relâche et je savonne sur votre nom. Alors que j'ai fait attention pendant toute l'émission. Votre livre s'appelle Va au Japon. Il est publié aux éditions Les Arènes. Comment?
Merci beaucoup.